quand il venait défiler au mois de mai. La fleur au bout des rêves et des pavés, la grosse cigare fumant 30 ans après. Les fleurs fanées de leur liberté, on leur apprend dès la plus tendre enfance à ne pas être une brebis galeuse, à se faire manger au gré des transhumances, la laine sur le dos à grands coups de tondeuse. Ils lisent, regardent, écoutent la même merde, s'habillent toujours comme leur vend la mode, s'entassent partout de peur qu'ils ne se perdent. Paris la plage, au gré de la période, comme un troupeau de moutons. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on aura nos places au soleil, on formera bien d'autres bataillons pour une place sous des ombrelles. Pour protéger leur Dieu et leur patrie, leur petit confort et leur identité, pour que s'éloigne le loup de la bergerie. Ils changent leur veste et retournent leurs idées. Et en cortège, colonnes et processions, ils vont au vent des courants de pensée, conjurer leurs terreurs à l'unisson, voter pour l'ordre et la sécurité, comme un troupeau de moutons. Place au soleil, on formera bien d'autres bataillons pour une place sous des ombrelles. Derrière le plus fort, derrière le plus riche, à la conquête de nos apparences, au royaume du mensonge et de la triche, et de nos veines et plurielle ressemblance. On pense, on suit nos chiens, nos bergers, reniant nos disponibles cerveaux. On oublie que souvent la liberté s'est effacée à l'ombre des faisceaux, des troupeaux de moutons. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on aura notre place au soleil, on formera bien d'autres bataillons pour une place sous des ombrelles.
Y a qu'une seule cartouche d'encre noire dans mon stylo désarmé, juste une plume trempée dans l'espoir d'un monde de fraternité. Aux fiers messagers de la haine, j'envoie cet avion de papier chargé des seuls mots de ma peine sur leur tour d'inhumanité. Moi qui ne crois en aucun dieu, je prie celui qu'on voudra pour qu'au mur des villes, des détail un jour des mots de joie. Mes larmes ne m'écoutent plus, larmes de rage et de tristesse. C'est un peu de moi que l'on tue, mes rêves d'ado que j'y laisse. De nos rires de résistance, on gommera nos masques tristes. Nos guitares sans importance seront nos fusils d'artistes. Je vais encore gueuler l'amour, plus haut, plus fort sur tous les toits, pour qu'il soit contagieux autour et qu'il gagne enfin pour une fois. Je suis enfant sans armure, l'eau, le feu, la terre et le vent. J'ai mal à celui qu'on torture. Je suis humain simplement. Pour tous ces frangins qu'on enterre, j'ai dessiné cette chanson-là. Je n'ai que ça comme prière, pour leur dire qu'on ne les oublie pas.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, Mohamed est en train d'arriver. On écoute une dernière petite musique pendant qu'on s'installe. À tout de suite.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que les vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte, la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui mais, ça branle dans le manche, ces mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront, demain les gens de la police refleuriront sur les trottoirs, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui mais, ça branle dans le manche, ces mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront, le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À qu'enfin la République de la justice et du travail. Oui mais, ça branle dans le manche, ces mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Oui mais, ça branle dans le manche, ces mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Troisième lundi du mois sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est la société dans tous ses états. Mohamed du micro et aujourd'hui exceptionnellement Monique aux manettes. Bonjour Monique et merci beaucoup. Nous avons le plaisir d'accueillir notre ami Nedjib Sidi Moussa. Est-ce qu'on peut encore le présenter sur les ondes de Radio Libertaire, Nedjib? Oui, on peut toujours te présenter, Nedjib Sidi Moussa, docteur en sciences politiques et professeur des écoles. C'est comme ça qu'on dit?
Non, professeur, moi je suis dans le secondaire, professeur des écoles, c'est les anciens instituts.
Pardon. Voilà. Donc professeur dans le secondaire, ouais. Remplaçant.
Oui, contractuel.
Contractuel. Pour son livre, Le remplaçant, journal d'un prof précaire de banlieue. Qui est paru cet été aux éditions L'Échappée. Nedjib, je t'avais accueilli la dernière fois, je crois, dans notre émission avec Gérard Noiriel. Ce devait être en avril 2021.
Ah oui, tout à fait. Oui. Hein? Très bonne émission.
Et puis
très bel échange.
Oui. C'était vraiment une très belle émission pour le livre de Noiriel, le Race et sciences sociales. Et puis tu étais venu aussi avec Mohamed Harbi. Alors ça, c'était en 2021.
C'est ouais,
ça.
Un petit peu avant.
Ouais. Un petit peu avant avec Mohamed Harbi. Là aujourd'hui, c'est donc ton expérience de prof remplaçant dans le secondaire qui t'a conduit donc à rédiger ce journal. Mm-hmm. Un peu un journal de bord. Alors quand j'ai su que ce livre allait être publié, j'ai pris tout de suite contact avec toi. C'était l'été dernier, avant même l'apparition du livre, et on avait anticipé en quelque sorte cette émission et tu m'avais très favorablement répondu pour donner ton accord pour venir nous parler de ce livre. Malheureusement, l'actualité récente a un petit peu percuté notre rendez-vous. Mmh. C'est pas un scoop, hein, mais l'école a été atteinte de manière un peu brutale par les développements de l'actualité dramatique au Proche-Orient. Alors, tu m'as dit juste avant qu'on se voit que tu, pour des raisons d'emploi du temps, tu n'as pas pu être présent aujourd'hui et vendredi dernier. Mmh, mmh. Si j'évoque ça, c'est parce que dans ton livre, dans ton expérience de remplaçant dans le secondaire, tu nous montres à quel point l'école est une sorte d'éponge qui capte tout ce qui se passe dans la société.
Alors, l'école, les enfants, les élèves en particulier. Ouais. Bon, je commence d'abord par te remercier. Hein, c'est toujours un plaisir d'être sur Radio Libertaire. Évidemment, quand tu m'as proposé, en voyant l'annonce de parution prochaine du livre, de venir à ton émission, j'ai accepté, comme toujours. Tu sais bien, tu fais partie des personnes que j'estime beaucoup.
Merci.
Et, non, mais c'est important de le dire, hein, on va pas être hypocrite. Et en fait, je dirais que le livre, il a été rattrapé par d'abord une autre actualité, en fait plusieurs actualités, je dirais. C'est-à-dire qu'entre le moment où je rends le manuscrit et sa parution, eh bien il y a eu tout d'abord la mort, l'assassinat du jeune Naël Merzouk, et qui a donné lieu à des émeutes urbaines. Donc c'est la jeunesse qui à l'âge de certains de mes neveux, qui à l'âge de certains de mes élèves également, qui s'est soulevé et qui a exprimé sa colère et sa tristesse. Donc ça, je dirais que c'est la première actualité. L'autre actualité, mais qui commençait un peu à s'installer dans le paysage depuis un moment, encore une fois, je reviendrai peut-être sur les conditions dans lesquelles j'ai écrit, mais disons que j'ai écrit au moment où commençait à émerger dans la scène médiatico-politique la question des conditions de travail, des difficultés de travail des enseignants, avec une médiatisation un peu outrancière, en installant un climat très angoissant, poussant même à la démission, mais on pourra y revenir un petit peu après. Donc l'école est redevenue un sujet politique, et bien plus encore avec cette rentrée, on l'a vu avec les déclarations présidentielles, la nomination d'un nouveau ministre, etc. etc. Et puis, hein, tu parlais de ça, il y a aussi une actualité internationale. comme la plupart des conflits en réalité. Moi, quand j'écris mon journal, c'est d'abord l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui s'est répercutée d'une manière ou d'une autre chez mes élèves. Et là, c'est au Proche-Orient que ça se passe. Alors, et puis il y a une autre actualité, je pense que tu l'as sous-entendu, actualité, enfin, je pense pas que le mot soit juste, hein, de toute façon, hein. Disons que ce sont plutôt des drames et des catastrophes. C'est ce qui s'est passé effectivement vendredi, et puis voilà, bon, pour être tout à fait transparent, hein, tu parlais d'emploi du temps, il se trouve que vendredi, pour moi c'est d'abord un jour de grève. D'accord, il y avait un appel à la grève qui était relativement peu suivi sur l'austérité. Je me préparais à aller en manif. J'anticipais le soir une rencontre sur ce livre précisément en banlieue sud, et j'étais sidéré par la nouvelle de la mort d'un collègue. Je pense, et ça dépasse complètement la corporation, le métier. C'est une onde de choc terrible. 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, c'est horrible. C'est horrible, et ça. Et là, je crois que c'est une des premières fois où j'en parle publiquement, en tout cas, à travers un média. Et tout ça, effectivement, ça se. Comment dirais-je, ça se télescope, tout ça se surajoute, en fait. C'est une horreur qui se rajoute à une horreur. C'est un climat qui est extrêmement inquiétant, mais je crois qu'on a aussi une responsabilité collectivement, surtout dans les espaces où on se trouve, où on s'exprime. D'essayer de garder la tête froide, même si ça nous fait mal. Et donc, effectivement, pour des raisons d'emploi du temps, et je termine là-dessus, pour le moment, je ne travaille pas le lundi. C'est pour ça que je n'ai ni vu mes élèves. Donc, je ne les ai pas vus vendredi parce que je faisais grève. Et aujourd'hui, je ne les ai pas vus parce que je ne travaillais pas. Donc, je ne pouvais pas. Je les verrai demain. Voilà. Je les verrai demain et on verra bien comment ça va se passer. On discutera, on fera court, on discutera s'ils le souhaitent. Normalement, ils ont dû avoir une première occasion d'échanger, mais. Moi, je suis le genre de prof qui est tout à fait ouvert à la discussion. Et surtout, faut bien faire comprendre que la jeunesse de cette société, pour ne pas dire de ce pays, n'est pas si affreuse que certains veulent bien nous le faire croire. Elle est beaucoup plus généreuse, elle est beaucoup plus intelligente, elle est beaucoup plus drôle que ce que certains, encore une fois, veulent nous faire croire.
C'est un des messages qui transparaît vraiment à la lecture de ton livre. On va revenir sur tous ces points au cours de notre entretien. D'abord, une question sur la genèse de ce journal. Je le disais en introduction, tu es titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Et tu, pour des raisons matérielles de base, tu es vacataire pour l'éducation nationale.
Alors, contractuel, exactement.
Contractuel.
Vacataire, c'était quand j'étais à l'université, effectivement. Bon, ouais. Mais bon, c'est un reste précaire.
Ouais.
Vacataire, d'accord. Contractuel, c'est la même chose. C'est une question de statut. Mm-hmm. Mais, ouais, excuse-moi,
je t'en prie. Non, mais je t'en prie. Ouais. C'est bien de préciser le sens des mots, comme disait Camus. Tu as commencé à être contractuel dans le secondaire il y a 3 ans, c'est ça ?
Bientôt 3 ans.
Ouais.
Alors oui.
Et donc tes postes se trouvent ce que tu décris en tout cas dans ton livre dans des ce qu'on appelle les banlieues, des quartiers défavorisés. Je sais pas quel est le terme que tu utiliserais pour définir les endroits où tu travailles.
Alors, pudiquement et dans les espaces militants médiatiques, on va parler de quartier populaire.
Ouais.
Donc, ça fait plus sympathique. Je peux comprendre. Il y a une envie, sans doute, de répondre à la déshumanisation, précisément, ou à la stigmatisation des gens qui vivent et qui travaillent, à commencer par les enfants, à commencer par les élèves. Et je peux comprendre ce souci. Maintenant, si on a un regard, peut-être un peu plus acéré, ou alors, si on veut aussi répondre ou décrire les choses un peu plus fidèlement, ce sont des ghettos, ce sont des zones de relégation sociale, que cherchent plutôt à quitter les premiers concernés dès qu'ils en ont l'opportunité, mais pour des raisons simples. pour des raisons que je pourrais énumérer longuement, mais qui sont la difficulté d'avoir accès aux services publics élémentaires, la difficulté à avoir accès à des loisirs, la difficulté à avoir accès à des logements décents, à des prix convenables. Donc effectivement, dès qu'on en a la possibilité, on quitte ces zones-là. Mais bon, il y a encore, et heureusement d'ailleurs, des écoles, des collèges, des lycées, et il y a toute une jeunesse qui arrive, qui monte et qui a le droit précisément à une éducation gratuite, laïque et de qualité. Mais ce sont des zones, des quartiers, et encore une fois, sans stigmatiser les gens qui y vivent, où sont cumulées plein de difficultés. Donc voilà, moi j'ai été nommé il y a quasiment 3 ans, d'abord en banlieue sud, dans un collège. Peu de temps après, quelques semaines après l'assassinat de Samuel Paty, on est encore en plein moment où le Covid est très présent, où il y a toute une série de précautions sanitaires, tout un protocole à suivre. Donc c'est-à-dire, je commence à enseigner masqué, mes élèves sont également masqués. Et en fait, après quelques années de galère, moi j'ai soutenu ma thèse en 2013, je te rappelle, docteur en sciences politiques, maintenant ça fait vieux, ça fait bientôt 10 ans, ça va faire 10 ans que je suis docteur, que j'ai été docteur sans poste, à enchaîner des petits contrats, des périodes de chômage, vraiment de galère à tout point de vue, sachant que c'est un milieu qui est particulièrement dur. Et donc oui, à un moment donné, bah, il faut répondre à des soucis matériels. Et le seul boulot véritablement que je trouve au sortir du confinement, c'est d'être contractuel dans l'éducation nationale. Mmh. Et alors que je pensais enseigner en lycée, comme on me l'avait fait un peu miroiter, j'arrive en collège. Bah, parce qu'en fait, il y a plus de collèges aussi. Mmh. Et c'est vrai aussi que je pensais d'abord enseigner les sciences économiques et sociales, mais il y a très peu de postes. Donc je me suis retrouvé en histoire-géographie, ce qui finalement me va très bien. Donc la jeunesse du livre, en fait, c'est une surprise, c'est un choc aussi, c'est un retour au collège, hein, d'autres ont raconté ça, une espèce de retour au collège, et sauf que c'est pas le collège que j'ai connu, et ce qui est normal, parce que moi j'étais dans un collège certes où les élèves étaient essentiellement de milieux populaires, ouvriers, immigrés, mais pas que, je viens du nord de la France, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, mais j'étais aussi dans les bonnes classes, parce que une de mes tantes, hein, m'avait bien fait passer le message, et à mes parents, puisque j'étais plutôt bon élève et qu'il fallait un peu me protéger, eh bien j'ai pris, hein, comme la plupart des bons élèves, et peu importe le milieu finalement, j'ai pris allemand deuxième langue et latin, ce qui m'a mis dans les deux meilleures classes du collège. Et donc quand mes petits copains me racontaient comment ça se passait dans leur classe, j'hallucinais. Donc voilà, c'était le brouhaha permanent, des bagarres, etc., des exclusions, des élèves qui pouvaient répondre aux profs. Hein. Et moi, je me suis retrouvé prof dans ces classes-là, en fait. C'est ouais. ce qui est assez drôle, finalement, en y repensant. Et donc voilà, donc cette espèce de choc, entre guillemets, et donc d'abord des anecdotes que je raconte ça à ma famille, à mes amis, à mes proches, qui hallucinent ou qui rient ou qui sont émus, parce que on voit plein de choses dans une salle de classe.
Je me souviens qu'on en avait parlé ensemble au tout début où tu remplaçais, on s'était rencontrés et tu m'avais parlé de ta toute nouvelle expérience de prof et de ta surprise de découvrir cette ambiance que tu ne connaissais plus ou pas. Enfin, je me souviens que tu m'avais en particulier attiré sur le niveau scolaire des élèves à qui tu avais affaire.
Ouais, bien sûr. Mais là encore, on a tous une expérience propre qui est biaisée, en fait. Quelqu'un qui aurait eu, ce qui n'était pas mon cas, qui aurait eu un problème avec l'institution scolaire, ou qui serait passé par les classes que j'ai un peu décrites, je dirais, bah oui, bah ça, c'était ma réalité. Je sais pas si c'est eux qui écrivent le plus de livres, hein, malheureusement, je crois. Néanmoins, voilà, j'étais un bon élève à l'école publique. Mais là encore, il y a une distance qui est celle des générations. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais j'insiste quand même dessus. A priori, peut-être aussi ce qui m'a déstabilisé, mais finalement c'était peut-être une espèce d'illusion que je n'aurais pas dû avoir, c'est que je me sentais et je me sens toujours hein, proche de mes élèves à au moins trois titres ou sur trois plans, c'est que on a les mêmes origines sociales, on est tous des enfants de prolo, quasiment tous des enfants de prolo, on est tous, quasiment tous, des enfants d'immigrés, voilà, maghrébins, subsahariens, ou des anciennes colonies, on a quasiment tous grandi dans des familles de religion, de culture musulmane. Voilà, donc ça faisait trois points communs extrêmement forts, ce qui peut susciter en fait à la fois une recherche de proximité ou d'affinité qui n'ont pas toujours lieu d'être pour une raison assez simple, c'est que là je suis dans la position du prof et qui est c'est l'institution qui veut ça, donc je suis pas leur copain en fait, je ne peux pas être leur copain. Et puis je suis vieux. Eh oui, c'est comme ça. Je n'ai plus 10 ans, je n'ai plus 15 ans. Je suis quelqu'un qui, quand j'écrivais le livre, j'allais avoir 40 ans. Et donc, y a une distance, de fait. Voilà. Et je n'ai pas leur code, je n'ai pas leur gestuelle, je n'ai pas leur façon de parler, je ne m'habille pas comme eux. Et pourtant, on échange. Et pourtant, on apprend. On essaye, en tout cas. On essaye. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a des conditions de travail qui font que ce métier est épuisant, hein, notamment sur les établissements, sur les territoires dans lesquels j'ai été nommé. C'est ma réalité, mon expérience, mais qui est celle, me semble-t-il, qui fait écho à plein d'autres. Et puis voilà, j'ai un statut particulier, je suis le remplaçant, c'est celui qui arrive après la rentrée. C'est celui qui n'a peut-être pas toutes les infos, celui qui prend le train en marche. C'est jamais évident, c'est jamais facile de prendre le train en marche, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de respect, qu'il n'y a pas de respect à la fois de la part des élèves, de la part de l'équipe administrative ou de la part de ses collègues, même si ce n'est pas toujours donné.
Il y a plusieurs passages dans ton livre où tu montres la curiosité qu'ont les élèves à ton égard. Et qui veulent deviner ou savoir qui tu es, d'où tu viens, quels sont et ta façon de leur répondre, de garder la bonne distance, elle est très 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 subtile et tu racontes à plusieurs reprises justement cette tentative de contact ou de comment ça se passe concrètement.
Ça se passe comme j'ai envie de te dire comme des enfants peuvent parler à un adulte, mais un adulte qui peut-être pour eux est un peu différent des autres adultes qu'ils côtoient au quotidien. Là encore, il y a des choses qui me fait toujours sourire, qui peut donner prétexte à des petites blagues, mais le problème c'est que quand tu commences à rire avec tes élèves pour repartir un peu dans le sérieux, c'est compliqué. Oui, alors ils commencent souvent, surtout en sixième, ils sont encore très scolaires, très polis, ils sont tout petits, etc. Donc, ils lèvent la main et le premier mot qui vient, c'est madame. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'habitude d'avoir en face d'eux des femmes. Ouais. C'est jusqu'à un certain niveau, c'est une profession qui est très féminine, très féminisée. Et donc, voilà, et puis ils se reprennent, et puis voilà, ça peut faire glousser, ça peut faire rire, mais c'est comme ça. Mais ça veut dire quelque chose. Donc déjà, ils se rendent compte que, ouais, en fait, non, ils ont un homme en face d'eux, et l'autre particularité, encore une fois, hein, c'est Monsieur Sidi Moussa qui est là. Alors, Monsieur Sidi Moussa, quand ils ne connaissent que le nom, ça peut évoquer des choses très différentes. Mais là, encore une fois, hein, je rappelle la caractéristique de mes élèves. Ils ont un lien très fort avec l'histoire de l'immigration de ce pays, particulièrement celle qui vient du sud de la rive sud de la Méditerranée. Donc, ils me posent la question souvent sans filtre et sans arrière-pensée, sans méchanceté, bien au contraire. Hein, c'est de quelle origine vous êtes monsieur ? Ou parfois, quelle est votre religion ? Alors ça, ils osent moins. Oui. Parce qu'ils sentent quand même qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas non plus poser directement, frontalement, mais l'action des origines, ça revient souvent.
D'accord. Sur la religion, il y a quelque chose qu'ils ont intégré, peut-être.
Justement, c'est pour ça que je dis qu'il y a des... Moi, quand j'entends certaines choses, et c'est vrai que quand il y a des drames qui se produisent, je pense qu'il y a la peur qui s'exprime plus facilement, il y a les angoisses, il y a aussi l'ignorance. Je parle pas des collègues, hein, d'accord ? Je parle notamment des politiciens ou des journalistes. Il y a aussi un racisme qui ne dit pas son nom ou qui dit son nom, hein, pas besoin de trop lire entre les lignes pour comprendre aussi ce qu'il y a derrière certaines accusations. Mais évidemment, là, si tu veux venir sur ce terrain-là, bon, dans ce cas, je vais te faire part d'une observation qui est à la fois rassurante et qui peut être inquiétante. Oui. Tu vois, D'ailleurs, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Allez, je vais donner une anecdote, c'est plus simple. Je parle de l'apparition des premiers hommes, de nos lointains ancêtres. Tu sais, le programme d'histoire géo, il est extrêmement vaste. En sixième, on commence avec la préhistoire. Voilà. Et donc, j'avais fait une séquence sur l'archéologie, pour bien faire comprendre que c'est ce qui nous permet de dater, de trouver les premières traces, les ossements, etc. etc.
C'était
en
à quelle place ?
En sixième. Je précise, en sixième. Et donc, à un moment donné, bon, le lendemain, pardon, j'essaie de faire réfléchir mes élèves, de leur faire récapituler un peu ce qu'on avait vu la veille, lors de la précédente séance. Et je dis, voilà, alors comment est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce qu'on peut trouver des traces, justement, comment est-ce qu'on a retrouvé les traces de nos lointains ancêtres ? Et comment est-ce qu'on peut expliquer leur apparition, le fait qu'ils émigraient, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on les fait réfléchir aussi. Et il y a une élève, comme ça, spontanément, mais qui fait, monsieur, c'est simple, on descend d'Adam et Ève, et voilà. Ah, je dis, écoute, ça, c'est si tu es croyante. Tu as le droit de l'être, je n'ai pas à le savoir, mais en classe, en fait, on s'appuie sur les faits, sur la science. Bah, précisément, rappelle-toi ce qu'on a fait hier, l'archéologie, les scientifiques, etc. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de méchanceté, de revendication, je ne sais quoi. Donc on fait le cours, etc., on avance, on progresse. Et puis à la fin de l'heure, il y a un autre élève, ce n'est pas celle qui a parlé, c'est un autre élève, un petit garçon, et qui me dit, alors monsieur, si j'ai bien compris, en histoire-géographie, on étudie les faits, d'accord, c'est sur la science. La religion, on peut la laisser à la maison si on veut. Je dis, oui, t'as tout compris. Voilà. Bon, là, c'est la version optimiste. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves ont complètement intégré qu'il y a une séparation, en fait, entre l'école, la maison, ce qui relève de leurs croyances, de leur éducation, etc., etc. Bon. Donc, on voit bien que le principe de la laïcité, et moi, je parle tranquillement, tu sais bien que j'ai pas de tabou sur ces questions ou sur d'autres. Je n'ai jamais eu de... Ou alors, pas de cette manière-là, de remise en cause de l'enseignement. C'est plus subtil que ça, je dirais. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que tu vas avoir certains élèves qui, justement, intègrent parfaitement la règle, qui a une dissociation à opérer, et donc il y a un savoir et un langage à tenir pour l'école, mais que, dans leur fort intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en même temps, je dirais, est-ce si inquiétant que ça ? Quand tu es à un âge, notamment l'adolescence, où tu te construis, où tu es exposé à différentes pressions, différentes influences, précisément celle de la maison, celle du quartier, celle des médias, tes doutes intérieurs, tes questionnements intérieurs, c'est normal d'être tiraillé. Le contraire serait vraiment étonnant. Si on attend que des élèves adolescents, pré-adolescents, qui viennent d'un certain milieu, notamment ceux avec lesquels je travaille et le milieu dont je viens, si on s'attend à ce que du matin au soir, ils nous récitent un catéchisme républicain et qu'ils en soient convaincus à leur fort intérieur, ça serait en fait nourrir une très grande hypocrisie. Et si on ne leur donne pas l'occasion, dans un cours, l'occasion de leur faire comprendre que ils ont le droit de faire des objections, ils ont le droit de ne pas être d'accord, mais que ils ont le devoir en tout cas, qu'ils peuvent s'exprimer en toute confiance, sans avoir peur qu'à chaque fois on leur tape, comme à l'époque, un coup de règle sur les doigts. Je pense que c'est ça qu'il faut réussir à faire. Je crois avoir réussi à le faire jusqu'à présent. Et je ne me suis pas exposé à des choses horribles. J'ai pu entendre des inepties de la part de mes élèves, j'ai pu comprendre que certains étaient attirés par un discours très conservateur, je ne vais pas le nier, mais ce que j'ai remarqué, c'est ça qui me donne confiance aussi, c'est que la principale opposition à des discours qui pouvaient être très machistes, très conservateurs, etc., jusqu'à une certaine limite, bien sûr, la réponse, elle venait des élèves eux-mêmes. La réponse, elle venait de la classe, elle venait pas du professeur. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que la jeunesse, elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus diverse, beaucoup plus plurielle et ouverte qu'on veut bien nous le faire croire et qu'on veut bien nous le faire entendre.
Monique, une pause musicale, s'il te plaît.
Aux écolières et aux écoliers qui, de 6 à 18 ans, passent en moyenne de 6 à 8 heures par jour le cul vissé sur un banc pour entrer plus tard dans ce qu'on appelle la vie active. Oh ben, ils doivent y arriver avec un bon tournevis. Il était si con, le premier de la classe, que tout le monde voulait être le dernier. Ça fait qu'il y avait un premier de classe, et tout de suite après 43 derniers. Chacun déployait son intelligence pour être noté au-dessous de zéro, pour ne pas choper le prix d'excellence qui récompenserait ce triste charlot. Il était si con, le premier de la classe, que c'était pas de sa faute s'il était le premier. Toutes les conneries enseignées en classe, il les avalait comme une tasse de thé. Avant que le maître ne nous questionne, il levait la main en disant « Monsieur, monsieur ». Et toutes les fois la réponse était bonne. Je me disais « Ce mec-là, c'est peut-être Dieu ». Il était si con, le premier de la classe, qu'effectivement c'était peut-être Dieu. Raison de plus pour ne pas suivre la trace du jeune phénomène adoré des vieux. Il nous faisait peur avec sa mémoire, qui dans les écoles passe pour du talent. La tête engorgée par les dates d'histoire, je l'ai revu plus tard au jeu des mille francs. Il était si con, le premier de la classe, qu'on faisait tous preuve d'imagination. Pour le distancer, pour qu'il nous dépasse, on a déployé des tonnes d'inventions. Henri IV est mort au cours d'une partouze, c'est à Waterloo que Jeanne d'Arc fut pendue. 6 fois 8, 24 et je retiens 12, la Loire prend sa source dans le trou de mon cul. T'es si con, t'es le premier de la classe, qu'il était le seul à ne pas se marrer. Même l'instituteur faisait des grimaces pour se retenir de nous imiter. Brave instituteur, il se rendit compte que la joie de vivre était un grand art. Un jour il l'a dit sans en avoir honte, il fut renvoyé avant nous, peinard. Si con, le premier de la classe, que tout le monde voulait être le dernier. Ça fait qu'il y avait un premier de classe, et tout de suite après 43 derniers. Je vois, messieurs, dames, vos yeux qui s'affolent. Voulez-vous savoir ce qu'il en advint? Un beau jour, on vit sortir de l'école 43 artistes et Giscard d'Estaing.
C'était le premier de la classe interprété par Patrick Font. C'est toujours Radio Libertaire, la voix sans limite maître de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de la société dans tous ses états. Aujourd'hui, nous recevons Nedjib Sidi Moussa pour son ouvrage paru aux éditions L'Échappée, Le remplaçant, journal d'un prof précaire de banlieue. Dans la première partie de l'émission, Nedjib, tu nous as dresser un peu le portrait de l'endroit où tu exerces, où tu travailles, et puis des relations avec tes élèves. Et ton discours, il est extrêmement empathique pour ces élèves, ce qu'on attend naturellement de la part d'un, a priori de la part d'un enseignant, qui va un petit peu, et c'est tant mieux, à l'encontre du discours dominant actuel qui a tendance à présenter ces jeunes, pour peu qu'ils soient en plus dans un collège, dans un quartier populaire ou un ghetto, comme tu le dis, c'est plutôt décrit sous des aspects, je dirais, presque terrifiants. Mmh, mmh. Et j'ai noté avec beaucoup de plaisir dans ton livre et aussi dans ce que tu nous dis, cette empathie que tu as pour ces jeunes en formation. Dans plusieurs parties de ton journal, lorsque tu parles de ta relation avec ces élèves, c'est ça qui apparaît en premier, c'est ton envie vraiment de leur transmettre, même avec les difficultés. Tu parles souvent de classes un petit peu difficiles où il y a des éléments entre guillemets, plusieurs guillemets, perturbateurs, dont on sent bien que cette perturbation, en fait, elle vient souvent du dehors, ou que ce sont des jeunes en en difficulté. Alors, à aucun moment tu n'endosses le rôle de psychologue ou de... C'est pas ton rôle et tu y fais bien attention, mais en même temps, tu as un regard tout à fait clair, en tout cas, sur cette jeunesse, sur cette enfance même, parce que les plus jeunes ont 11 ans, ils sont en préadolescence. Et souvent, ce que j'ai remarqué aussi dans ton livre, c'est ta façon de replacer les choses matérielles. Tu parles à plusieurs reprises de l'escalier. Alors, vous montez l'escalier, ça revient de manière répétitive, et tu montres bien cette espèce de routine qui s'installe, et en même temps avec elle la difficulté physique, la fatigue.
Oui, tout à fait. Alors bon. Je vais essayer de pas oublier de répondre à deux choses. Celle de la routine, de l'aliénation ou de la fatigue, qui est celle du travail, me semble-t-il, de peu importe finalement, mais parce qu'on a tendance souvent, quand on parle des enseignants, c'est encore une fois, c'est la vocation ou le plus beau métier du monde, mais c'est un travail avec tout ce que cela signifie. Mais je reviendrai par la suite après, si tu le veux bien. Il y a la première chose, la question de l'empathie. Alors, oui, l'empathie. J'ai travaillé notamment pour payer mes études en tant que mono, en tant qu'animateur en colonie de vacances. Donc tu vois, j'ai toujours d'avoir mon bac, et j'ai commencé à faire des colos pour des jeunes de banlieue et des jeunes du Nord, de mon Nord natal. Donc j'ai toujours resté en contact d'ailleurs avec. Comme quoi, tu vois, la province, le Nord, mon Nord, mon Nord natal et la banlieue, finalement, croire que c'était mon destin. Et ensuite, pendant mes études à Paris, j'ai été pion, donc AED, assistant d'éducation, surveillant dans un collège, dans une des poches de pauvreté à Paris. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion d'enseigner à la fac, donc là c'était plutôt des jeunes adultes. Et là, je me retrouve encore au contact d'un autre segment de la jeunesse. Et d'ailleurs, quand j'écris le journal en 2022, je suis à la fois à plein temps avec des heures supplémentaires imposées dans un collège de la banlieue nord, et je suis également vacataire dans deux facs de la banlieue ouest. Donc je suis aussi le jour avec des préadolescents-adolescents, et le soir, après mes journées harassantes, avec des jeunes adultes. Et c'était quelque chose d'extrêmement stimulant, mais extrêmement épuisant. Donc l'empathie, je pense que je n'aurais pas fait tout ça si je n'avais pas un minimum d'empathie à l'égard des plus jeunes que moi, des personnes plus jeunes que moi, qui sont aussi plus fragiles par définition, mais c'est sans doute une des qualités qu'on attend d'un prof ou qui fait qu'on devient prof. Ouais, c'est un métier que j'aime beaucoup, même si je pensais ou je croyais ou je crois encore pouvoir l'exercer dans d'autres conditions. Mais l'empathie, c'est celle aussi que les adultes, en général, doivent avoir à l'égard des enfants et à l'égard des jeunes. Seulement, me semble-t-il, encore une fois, il y a un discours. J'ai pas écrit le livre pour m'opposer à des discours. C'est pour d'abord décrire une réalité. C'est la cruauté qui prédomine, me semble-t-il. Et la cruauté, pas seulement à l'égard des enfants, mais à l'égard des plus faibles, tout court. Là encore, pas la peine de forcer le trait. Il suffit de voir sur la façon dont un discours, dont des slogans sont portés en règle générale. Et ce qui, me meurtrit depuis, ou en tout cas, je vais pas utiliser des mots qui seraient pas justes, mais ce qui me blesse profondément, c'est précisément cette froide indifférence à la souffrance de l'autre. On est prêt à justifier le crime, on est prêt à justifier la barbarie d'où qu'elle vienne, tant que on ne fait pas partie du groupe concerné. Voilà. Ou quand on pense qu'on ne fait plus partie du groupe concerné, c'est-à-dire qu'on s'extrait de l'humanité ou qu'on extrait l'autre de l'humanité. Et donc ça, c'est aussi pourquoi, allez, je vais redescendre un petit peu sur terre, mais tout de même, ça fait partie des choses qui me préoccupent aujourd'hui, cette à la fois la crise du mouvement ouvrier révolutionnaire ou de la gauche en général. Avec G majuscule ou minuscule, peu importe. Je sais que ça pourra faire grincer des dents sur Radio Libertaire, mais on va dire ça parce que je sais qu'on sera écouté pas seulement par des anarchistes, mais c'est aussi la crise de l'humanisme. ça fait partie des deux questions aujourd'hui qui me préoccupent énormément et qui expliquent, à mon avis, hein, le désarroi dans lequel on est, la difficulté à échanger, la difficulté à se comprendre, la difficulté à arrêter de faire des procès d'intention à quelqu'un qui parle pas exactement comme vous, à quelqu'un qui est pas habillé tout à fait comme vous. Et il va falloir en sortir, parce qu'autrement on va tous y perdre. Donc l'empathie, c'est même si c'est le thème un petit peu qui revient à la mode aujourd'hui avec la bienveillance,
le care,
voilà, c'est des mots qui peuvent justement contribuer à dépolitiser des enjeux qui sont éminemment politiques. Je crois malgré tout que c'est une qualité qu'on doit essayer d'avoir, et plus encore quand on travaille avec des jeunes, avec des enfants, des préadolescents, des adolescents.
Sur la question du travail, justement, tu viens de nous le dire, donc pendant toute cette année, celle qui fait le sujet de ton journal, tu es à la fois contractuel dans le secondaire, et tu as aussi des vacations, c'est bien ça, à l'université. Ça fait des journées très remplies, et puis surtout les heures de transport. Et ça revient. J'irai presque comme un leitmotiv tout au long de ton ouvrage, cette réalité concrète, matérielle, de la fatigue, en plus, tu travailles aussi pour toi, tu fais des recherches et des publications, tu prépares des ouvrages, tes journées font plus de 24 heures.
Alors, je vais répondre En chargeant encore la barque. Et ensuite, il faut relativiser, tu vois. 2022, je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le répète, pour les auditeurs qui auraient eu la chance de pas m'écouter jusqu'à présent. 2022, c'est une année extrêmement importante, dans le sens où c'est le deuxième établissement dans le secondaire. Alors moi, je pensais qu'on allait enfin me nommer en lycée, après une première expérience en collège, et en fait, je retombe en collège. On me propose de faire des vacations à l'université alors que je me sentais, à tort ou à raison, un petit peu blacklisté de l'université française, j'en dis pas plus. Je saisis l'occasion, par stimulation, hein, parce que c'est pas pour l'argent que tu vas faire des vacations à l'université, hein, qu'on soit bien clair. Hein. J'avais envie de retrouver ça, surtout après un moment qui était pour moi assez compliqué, hein, après l'euphorie et le désarroi du mouvement populaire en Algérie, le Covid, le confinement. J'étais dans une très grande solitude, une très grande précarité. Et j'avais envie d'échanger, j'avais envie de faire des choses. Je ne pouvais pas me dire, allez, je vais écrire seulement dans mon coin. L'écriture ne me suffisait pas à tout point de vue. Et voilà. Donc, dès que j'avais l'occasion de faire quelque chose qui me mettait en lien, en relation avec les autres, avec d'autres personnes, je saisissais l'occasion. En tout cas, j'essayais. Mais 2022, je reviens encore sur l'importance de cette année, ensuite je te répondrai. C'est une année électorale, c'est l'année où en fait j'écris un livre. Ce livre-là, je ne pensais pas que ça allait devenir un bouquin, ce journal. J'écris d'abord ce qui doit être Histoire algérienne de la France, et qui sort en octobre de l'année dernière. Et donc, c'est l'année de mes 40 ans. C'est l'année aussi du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne. Donc ça évoque plein de choses. Je suis également sollicité, pas trop sollicité, mais un petit peu quand même. Et donc voilà, c'est une année en fait qui est extrêmement chargée. Mais en fait, c'est pas ça qui va m'épuiser le plus. C'est pas ces sollicitations. C'est vraiment le métier en tant que tel, le métier. Alors, je t'ai dit tout ça aussi, quand je dis qu'il faut relativiser, c'est que c'est pas cette année qui a été la plus épuisante pour moi, en fait, hein, parce que même l'année précédente, quand je dis l'année précédente, c'est l'année de 2021-2022, celle où je commence vraiment dans le secondaire, c'est aussi l'année dernière, hein, également, celle où j'étais nommé dans un lycée finalement, mais aussi en collège, j'étais sur deux établissements, et c'est vrai que c'est la routine qui t'épuise, il y a une routine et des conditions de travail, donc quand tu es contractuel, tu peut être nommé très loin de ton domicile. Hein, je précise pas dans quelle académie je suis, mais chacun peut deviner, pourra deviner. Tu peux être amené à parcourir une heure, voire une heure et demie, si les transports sont aussi dégradés qu'ils le sont en région parisienne depuis un an et demi. Donc, tu fais une heure et demie aller. Tu vas faire 45 minutes, une heure entre tes deux établissements. Et puis, tu vas faire encore entre une heure et demie retour. Donc, tout s'accumuler, bah, t'es épuisé. Ensuite, tu as le travail en tant que tel, hein, qui est prenant, je veux dire, vraiment... J'ai mentionné tout ce que j'ai fait en 2022, mais effaçons tout ça, d'accord ? La journée d'un, ou plutôt le rythme d'un prof, hein, c'est entre 18 ou 21h s'il a des heures sup, ou un peu plus, s'il a agrégé, il va faire un petit peu moins, mais peu importe. Mais déjà, c'est épuisant ce travail-là. Et surtout, encore une fois, le transport, les préparations, les corrections de copies, les réunions éventuelles, etc. etc. Et tu es, en fait, comment dirais-je, dans des établissements, notamment ceux qui sont classés REP, réseau d'éducation prioritaire, où le nombre d'élèves par classe sera 25, hein, sera plafonné à 25, mais 25, c'est déjà trop. 25, c'est déjà énorme. 25, ça ne préserve pas ni du chahut, ni de la fatigue. Et en fait, là, je parle de la fatigue du prof, mais revenons au cœur du sujet, ce sont les élèves. C'est-à-dire que pour eux, être à 25 dans une classe, ce ne sont pas des conditions idéales et qui favorisent l'apprentissage et la progression, la transmission de savoir et de savoir-faire, ou d'esprit critique. Donc déjà, en fait, il y a une violence de l'institution, mais qui touche les élèves, les premiers concernés, les premiers intéressés, mais aussi les enseignants, dont je fais partie, mais aussi l'équipe administrative, mais aussi l'équipe technique, hein, également, qui est au contact des élèves, également. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, et plus encore dans les établissements qui n'ont plus le label REP, donc n'ont plus les moyens, et où tu vas te retrouver, c'était mon cas l'année dernière, dans des classes à plus de 30, où tu as des élèves, c'était le cas l'année dernière, j'avais deux classes de seconde particulièrement difficiles, c'est pas quand on dit élèves perturbateurs et tout ça, bon, il y a plein de choses à expliquer derrière, il y a plein de choses qui se jouent, qui sont terribles, et voire terrifiantes par moments. Mais c'est simplement le fait qu'on va mettre des élèves qui cumulent des difficultés, qui auraient besoin de plus, qui auraient besoin de plus d'accompagnement, qui n'ont pas ça à la maison, qui n'ont pas ça dans le quartier, et qu'on va mettre en situation d'échec. C'est que tout de suite, ils vont comprendre que ça ne va pas le faire. Et comment ils réagissent ? En règle générale, pas bien. Ils réagissent pas bien. Et tu peux mettre toute ton énergie, tu peux faire tous les efforts que tu veux, mais quand tu entends à la fin de l'année « mais en fait, il n'y avait rien à faire avec ces classes », fallait pas vous fatiguer, monsieur Sidi Moussa. Bah, tu te dis, mais attendez, on a usé ma santé pour rien. On a fait perdre une année à ses gosses pour rien. C'est terrible.
Il y a quelques passages très émouvants dans ton récit, lorsque, je crois que ça revient une ou deux fois, où tu es interpellé par un ou une élève et qui te fait le cadeau d'une gentillesse dans ces mots, et c'est vraiment touchant. Tu transcris bien ce moment de complicité, cette jeune élève qui te dit tu t'en vas, tu vas aller dans un autre lycée, et elle regrette, et elle te dit que tu étais un très bon professeur, et avec ces mots, on sent là qu'il y a une... On sent qu'il y a une forme de reconnaissance qui vient en quelque sorte soulager un petit peu cette charge de fatigue que tu as pu avoir. Il y a aussi tes relations avec les autres professeurs, avec les titulaires. Alors comment ça se passe avec les titulaires ? C'est pas là, tu es en train de sourire, on va voir l'antenne, mais on sent qu'il y a quand même là dans l'institution un manque de solidarité. J'ai l'impression, entre les professeurs titulaires et puis les contractuels. Est-ce que je me trompe ?
Ah oui, je te trompe. Voilà. Non, je dis pas ça pour éviter des polémiques. Hein. J'explique. Encore une fois, tu as des effets de contexte qui sont super importantes à préciser. Je sais que certains lecteurs ont été choqués de ce que je décrivais, pas concernant les élèves, hein, mais dans mes relations qui, il est vrai, étaient particulières avec certains collègues titulaires. Bon, je vais essayer de ne pas perdre le fil. J'ai atterri dans un collège où, et je l'ai compris un peu plus tard, ou un peu trop tard, je ne sais pas, où en fait il y avait des dissensions très fortes, et ça peut arriver, comme dans tout,
éducative.
voilà exactement, comme dans tous les lieux de travail, ça peut arriver. Moi j'ai connu plusieurs établissements, évidemment, depuis bientôt 3 ans, j'ai connu des ambiances d'un accueil, d'une chaleur, d'une solidarité extraordinaire, et je crois que c'est plutôt la norme, notamment en banlieue et dans les établissements classés REP.
D'accord.
Je parle de mon vécu, hein, je ne sais pas d'enjoliver les choses. Mais là, effectivement, je tombais dans un établissement où c'était compliqué. Mais en fait, j'ai compris que c'était la direction antérieure, donc pas celle avec laquelle j'ai travaillé, qui avait créé la zizanie entre les profs. Voilà. Parce que là encore, il faut peut-être essayer d'expliquer aussi, c'est une profession qui s'est prolétarisée, paupérisée. Je veux dire, il y a des stats là-dessus, hein, entre le pouvoir d'achat qui s'est effondré, ou la comparaison entre ce que gagnait un prof et le niveau du SMIC. Bon, mais c'est la même chose qui se passe malheureusement, hein, dans tous les services publics. Hein. Donc, qu'est-ce que ça pousse à faire quoi ? Ça va pousser des profs à chercher des heures supplémentaires, à faire un boulot à côté, et donc, ou alors à signer le pacte, hein, même si beaucoup le refusent, certains suivent ce principe du travailler plus pour gagner plus, et donc ça pousse à la concurrence.
Juste un tout petit mot sur le pacte.
C'est la mise en pratique, encore une fois, de ce slogan du travailler plus pour gagner plus, et en fait, c'est quelque chose qui vient... grignoter davantage le statut, tu vois, de la fonction publique et des qui protège en fait les enseignants, qui là encore faut bien comprendre que c'est une profession particulière. On rentre dans cette profession après un certain nombre d'études, donc on est souvent jeune, on passe un concours et on a un certain nombre d'heures de cours. Par exemple, quand tu es certifié, donc quand tu as le CAPES, tu vas faire 18 heures de cours. Quand tu es agrégé, tu vas faire 15 heures de cours hebdomadaires. Et je pense que c'est bien d'avoir un statut qui protège, précisément. Et en fait, les contractuels sont là pour pallier à des besoins, à des manques, à des absences. Voilà, on est des remplaçants. Et on peut être vu par certains titulaires comme des intrus ou comme des concurrents ou des personnes qui pourraient servir comme un moyen de pression pour éventuellement éroder davantage cette protection en fait à laquelle ils sont attachés et ils en ont bien le droit. Donc la statistique, celle que je vais citer ce soir, c'est qu'on est à 8% à peu près de contractuels sur les presque, là aussi je dis pas de bêtises, je crois presque 800 000 enseignants, ça représente quand même beaucoup. Ce pourcentage, en fait, il n'a fait que croître depuis 2010, mais comme le nombre de recours aux vacataires ou aux précaires à l'université ou dans tous les secteurs de la fonction publique, en réalité. Hein. Donc, il y a une espèce de délitement parce que le métier est moins attractif au niveau salarial. Et donc, tu as des personnes qui font un calcul très simple. Hein. Si j'ai un bac plus 5 de telle discipline, quel est le salaire ? Quel est le revenu que me propose l'éducation nationale, que me propose le privé ou que me propose une autre carrière. Donc, ce qui fait qu'il y a des manques, ce qui fait qu'il y a des postes offerts au concours qui ne sont pas pourvus. Et donc, on ne peut pas mettre, hein, contrairement à la promesse gouvernementale, un prof devant chaque classe. Et donc, comme il y a des manquements, comme il y a des absences, eh bien, on va avoir recours à des gens comme moi, des personnes qui ont du mal peut-être à trouver un travail ailleurs et qui vont se trouver plus facilement employables par l'éducation nationale sous un statut qui reste précaire puisqu'on signe un contrat d'un an, d'accord ? Donc notre visibilité elle est seulement d'un an et ça provoque des incompréhensions. Ils vont dire mais attends, comment ça se fait que tu es là ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi tu passes pas le concours ? Ou alors c'est autre chose, ça va être des soupçons un soupçon qui va être alimenté concernant notre légitimité ou notre compétence. J'ai entendu des choses assez horribles, hein, dans une salle de prof, mais aussi ailleurs. Hein, vous rappelez peut-être de cette fameuse opération du job dating qui avait été lancée par un rectorat de la région parisienne et qui a laissé croire qu'on pouvait recruter n'importe qui pouvait devenir enseignant. Ce qui fait que des élèves me l'ont dit aussi, hein, mais attendez monsieur, bon, on le sait bien, hein, n'importe qui peut être prof, etc. Et puis vous êtes mal payé. Et comme malheureusement c'est l'argent qui sert à mesurer le respect qu'on doit avoir aux gens aujourd'hui dans cette société capitaliste, eh bien tu vois ce que ça peut susciter comme réflexion de la part des parents, de la société et de certains élèves. Et de certains collègues également, tu as effectivement des réactions qui peuvent paraître tout à fait délirantes, un peu bizarres, un peu méprisantes de la part de certains titulaires, dans certaines conditions, dans certains établissements, je précise. Mais c'est parce qu'on n'est pas la norme, Quand t'es contractuel, quand t'es précaire, t'es pas la norme dans une profession. C'est tout à fait normal d'un certain point de vue où c'est d'abord le statut qui prédomine. Mais on est peut-être aussi, c'est peut-être cela qui explique une certaine forme d'inquiétude ou de réticence de la part de certains titulaires, pardon. C'est que peut-être qu'on est l'avenir malgré nous. Dans le sens où, avec le délitement des conditions de travail, donc un métier déconsidéré et que certains désormais jugent dangereux, si on a du mal à attirer des jeunes et à les motiver pour faire ce boulot, eh bien, on va avoir davantage recours à des contractuels, à des précaires, et ça va, à mon avis, contribuer à détériorer davantage un service public qui est déjà bien abîmé, quoi.
Monique, s'il te plaît, une pause musicale.
À l'école, nous avons appris l'ABC. La maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut tout le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe. Régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvres nés, des cancres, des crétins crasseux. En travaillant exclusivement que pour nous, les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser pour de bon, un baiser libertin, un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin. Au pupitre d'alors, quelque chose changea. L'école buissonnière eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne, crac, connurent tout à coup la faillite, le crac, la faillite, le crac. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellents ex-échos, d'excellents ex-échos. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à une heure indue, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie. De l'école, en dépit de son beau palmarès, on chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition, le forant téméreux devenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco, nous étions tous derniers de la classe ex-écho, de la classe ex-écho. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.
Oui, c'est toujours Radio Libertaire, la société dans tous ses états. Radio Libertaire, la voix sans unimètre de la Fédération anarchiste. On vient d'entendre une très belle chanson écrite par Georges Brassens, qui n'a jamais pu interpréter lui-même. Donc, et là, elle était magnifiquement interprétée par Maxime Le Forestier, la maîtresse d'école, toujours avec Nejib Sidi Moussa, pour son livre Le remplaçant, journal d'un prof précaire de banlieue, paru en septembre. Aux éditions L'Échappée. Donc, on a évoqué les conditions matérielles, dans lesquelles on a bien compris que c'était des conditions quand même assez fatigantes, harassantes. Ce qui m'a vraiment interpellé dans la lecture de ton livre, il y a plein de choses bien sûr, mais c'est justement cette façon que tu as d'expliquer et de raconter cette routine, ce quotidien qui revient. Il y a aussi Tu remarques, enfin tu fais une petite incise assez drôle. Avec, il y a beaucoup d'humour, hein, vraiment tu as mis beaucoup d'humour. Et c'est quelque chose d'assez comment dire de qui peut paraître un peu surprenant. Ces dernières années, on a vu dans l'édition beaucoup de livres sur les conditions sociales et professionnelles des précaires, en particulier des intellectuels précaires. On a trouvé une nouvelle classe d'intellectuels précaires. Et j'en ai pas lu beaucoup, mais les peu que j'ai pu en lire ou les échos que j'en ai eus, c'était plutôt sous la forme de la lamentation. Je jette la pierre à personne, hein, bien entendu, en disant cela. Mais ton livre, il est pas du tout dans cette optique. Alors, je ne suis pas là pour te lancer des fleurs, hein, mais
vas-y. C'est rare.
Il y a de l'humour, il y a de la... Je l'ai dit dans la première partie, il y a de l'empathie pour tes élèves. Et il y a aussi un regard acéré sur l'institution, sur les conditions de travail. Et sur l'humour, c'est... j'ai trouvé ça très drôle, c'est... Tu te décris, donc tu t'habilles, tu as une façon de te présenter, de t'habiller, ton chapeau qui est devenu pour toi, pour nous en tout cas, on te reconnaît de loin à ton chapeau qui n'est pas anodin. C'est un chapeau, il est là devant moi sur la table du studio, hein, type Borsalino peut-être ou,
pas tout à fait, j'ai oublié le nom
voilà,
précis du modèle.
Un feutre, tout à fait classique.
Ouais.
Tu te distingues entre guillemets par rapport à pas mal de tes confrères à l'école et tu décris, alors c'est à la fois de l'humour, une petite pique, le style quechua que moi je connaissais pas jusqu'à maintenant.
Ah ouais, toi tu veux vraiment me fâcher avec mes collègues.
Non, pas du tout. Non, je veux pas te fâcher, mais simplement pour souligner cet aspect à la fois personnel et tu mets la bonne distance en fait dans ton récit. C'est ça qui est à la fois un témoignage d'un prof remplaçant précaire de banlieue face à des conditions de travail difficiles et harassantes et que tu expliques vraiment dans le détail, la façon dont tu présentes tes relations avec les élèves qui sont à la fois... C'est compliqué, on sent bien que ça, c'est un travail. Tous les jours, tu dois remettre le défi de répondre à toutes les situations de tes élèves. Et puis, ce petit pas de côté qui permet d'avoir un petit regard distancié. C'est important quand même de cet humour et cette distance pour garder le cap ou comment tu vois ça? Ou alors, c'est moi qui interprète trop?
Non. Après, ceux qui me connaissent, savent que je suis pas le dernier à faire des petites blagues, même si elles font pas forcément rire tout le monde. Mais et puis j'ai pu aussi écrire d'autres textes qui n'appelaient pas nécessairement à l'humour, même si il y avait quand même deux trois petites blagues dans La Fabrique du Musulman, hein, faut le rappeler. Dans les autres moins. Quand j'écris sur les indépendantistes algériens, dans ma thèse, il y a pas de blague, non. Dans l'histoire algérienne de la France non plus, il y a pas de blague. Mais ce qu'il faut peut-être aussi rappeler, c'est que encore une fois, je crois ne pas avoir passé une journée avec mes élèves sans avoir ri vraiment. Et les mauvaises journées, c'est celles où je n'ai pas ri.
Ouais.
Là, c'est des journées très dures. Et j'en ai eu beaucoup l'année dernière. Mmh. Trop, d'ailleurs. Mais quand j'écris ce journal, quasiment à chaque cours, encore une fois, on a affaire à des enfants, des préadolescents, des adolescents, qui sont débordants d'énergie, et qui ne sont pas les derniers à faire une petite blague non plus. Hein. Moi, je n'en fais pas toujours. Parce que là encore, il y a l'action de la génération. Hein. Je me souviens de la connivence qui était la mienne avec mes étudiants quand il n'y avait pas une trop grande différence d'âge. Quand j'ai commencé en 2012, il y a longtemps, j'étais à terre, précaire à la Sorbonne. Je pouvais faire mes petites blagues d'un télo de gauche, tu vois. On se comprenait. Pas besoin d'en faire des tonnes. Avec mes élèves, là, j'ai senti qu'il y avait le poids des ans, tu vois, le poids des années, des générations. Et donc, on rit, hein, mais il faut que je comprenne, il faut que j'ai la ref, comme ils disent, il faut que j'ai la référence. Mais ils m'apprennent des choses. Et puis, encore une fois, il y a tellement de générosité qui vient d'eux, tellement d'intelligence. Il y a un peu de bêtise, un peu de folie aussi, ne soyons pas démagos. Hein. Mais voilà, l'humour, en fait, il retranscrit d'abord ça, mes interactions,
Et puis, il y a le regard sur ma situation, sur la situation de l'institution. Moi, j'ai pas voulu écrire quelque chose qui rajoute du malheur au malheur. Il y a déjà un discours extrêmement déprimant sur quasiment tous les sujets importants du moment, et en particulier sur l'école, et qui pousse, à mon avis, au découragement, à la démission, à la fuite individuelle. Et moi, je pense qu'il suffit pas de décrire la situation la plus justement, la plus précisément possible, et la situation, elle est précisément pas réjouissante, mais la question, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est aussi pourquoi le livre, en fait, il est modeste dans le sens où il va pas proposer des solutions, parce que si des solutions doivent être élaborées, c'est que collectivement, que dans la mobilisation, dans la réflexion collective. Donc c'est une des limites ou une des modesties du livre ou de l'auteur. On choisira, mais l'humour, qui est réceptif, d'autres ne seront pas réceptifs. La question de la tenue, le chapeau, le nom m'échappe, la référence et le style en particulier, mais je crois que j'ai acheté le chapeau qui ressemblait le plus à celui de Bhagat Singh, qui est un révolutionnaire indien, un indépendantiste, ouais, pour lequel j'ai écrit un article pour la très belle revue Brasero, dans le numéro de l'année dernière. Comme ça on le sait. Et autrement, je pense que ça tient à mon éducation. Là encore, chacun, et il ne s'agit pas de dire, encore une fois, d'en faire des tonnes, je viens de province, je viens d'un milieu ouvrier, mes parents sont réfugiés en France, etc., etc. Mais je crois aussi qu'il existait, ce qu'il existe encore, je crois qu'il existe toujours, dans les familles populaires, dans les familles modestes, pour ne pas dire pauvres, il y a un attachement à la dignité aussi. C'est que, c'est ce que me disaient mes parents, tu ne vas pas sortir débraillé. Tu fais attention à ta tenue, à la propreté, parce que c'est aussi l'image que tu vas donner aux autres. Et je crois avoir gardé ça, en particulier à partir du moment où j'ai commencé à travailler, à avoir un salaire, et peut-être aussi parce que je me confrontais à d'autres milieux, à des regards de biais ou de travers, de personnes qui venaient peut-être de milieux plus privilégiés ou protégés ou favorisés que le mien, et qui s'autorisaient certaines choses, notamment dans la tenue, mais pas que, dans la manière d'être. Et voilà, il y a peut-être une espèce de rigueur ou de rigidité, si tu veux, même dans le langage que je m'autorise à avoir en public, et dans la tenue, et dans ce que j'ai envie de montrer. Et je pense que ça tient beaucoup à mon éducation. Mais encore une fois, chacun a le droit d'avoir son éducation. Et quand je me moque un petit peu, mais c'est parce que ce sont mes collègues, quand je parle de la gauche quechua, bon, on aura compris la référence, c'est pas pour dire qu'ils s'habillent pas bien que moi je m'habille bien, c'est pas ça. C'est que j'ai aussi eu des regards de travers, en salle des profs parfois, en me disant mais c'est qui lui, c'est le principal adjoint, il travaille pour l'administration. Mais j'avais déjà ça un peu à la fac, hein, selon les disciplines. Moi j'aimais bien porter une veste en velours, un jean, des chaussures quand j'allais travailler. J'ai déjà dit à certains de mes lecteurs, j'ai dû attendre d'avoir 40 ans pour m'acheter un survêtement et pour sortir faire la course avec. Ça peut paraître dingue, hein, mais c'est peut-être aussi parce que je voulais pas répondre à certains stigmates. Donc le regard des autres, ça pèse. Les clichés ou le racisme, ça pèse aussi. Oui.
Il me revient en mémoire cette anecdote sur le prof de techno.
Ouais, bien sûr. Mais là aussi, c'est...
Est-ce que tu peux le...
Ouais, bah, rapidement, parce que... Non, mais en deux mots, c'est vrai, quand je suis arrivé dans ce collège-là, on a cru que j'étais prof de techno. Mais pourquoi est-ce qu'on a cru que j'étais prof de techno? C'est parce qu'en région parisienne, il y a un fort contingent de profs de techno qui sont, il est vrai, plutôt d'origine maghrébine ou non européenne, pour le dire autrement, ou simplement, ou pas d'ailleurs. Mais ça veut dire quoi également? C'est qu'il y a une partie de gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, qui se sont fait, et là, c'est des témoignages que j'ai, hein, des gens qui se sont fait vraiment presser comme des citrons par des boîtes de consulting, d'ingénierie, etc. Et à un moment donné, bon, ils font un compromis, ils se disent, mais ils ont peut-être un salaire intéressant, mais en fait, ils n'ont pas de vie à côté. Et ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bah, en raison aussi, hein, ce que j'essaie d'expliquer parfois avec de l'émotion ou de l'énervement que j'essaie de contenir, c'est que quand on demande « Mais pourquoi t'habites dans ce quartier? Pourquoi t'habites dans cette ville et pas ailleurs? Mais vous pensez vraiment que si je m'appelle Monsieur Sidi Moussa, je choisis là où je vais vivre? Vous pensez vraiment qu'avec le salaire qui est le mien, je vais vivre là où je veux, là où je le souhaite? Ce n'est pas possible. » Et quand on me demande, mais pourquoi tu fais ce boulot? Pourquoi tu acceptes ce statut? Vous croyez vraiment que je fais ce que je veux? Que je fais le boulot que je souhaite? On ne choisit pas. Dans le système capitaliste, on ne choisit pas. On ne choisit pas. Et plus encore quand on ajoute à cela des handicaps. D'accord? Pas la peine de faire un dessin là-dessus. Mmh. Donc, voilà, c'est aussi pourquoi j'ai tenu à rappeler certaines choses, certains éléments qui relèvent de l'évidence, mais pas pour tout le monde, il faut croire, y compris dans les milieux qui s'intéressent à certaines thématiques. Donc, la tenue, le style, si tu veux, la manière de parler, la manière de se tenir aussi, ça procède de tout cela également. Ça procède de tout cela.
Il y a ce que je te disais avant l'émission, quand on s'est retrouvé pour venir jusqu'au studio. J'ai lu tous les ouvrages que tu as lu jusqu'à maintenant, et j'ai trouvé que celui-ci, ce journal, qui semblerait à premier aspect éloigné des préoccupations plus politiques de tes autres ouvrages, j'ai trouvé que dans ce livre, qu'il y avait énormément de politique. J'ai vraiment trouvé que c'était un récit, une mise en perspective à partir d'une expérience, de ton expérience personnelle, ton expérience de prof vacataire, contractuel dans un établissement du secondaire en banlieue, avec ton regard de à la fois de militants, mais aussi de scientifiques en sciences politiques, ce livre avait un contenu, un vrai et très fort contenu politique.
Encore une fois, je te remercie pour la remarque. Tu es un des premiers à le souligner. Alors, quand t'écris, quand j'ai écrit ça, vraiment, il n'y avait pas de grande prétention derrière. Si je n'avais pas été encouragé à le présenter à un éditeur, en l'occurrence à l'échappée, ce livre n'existerait sans doute pas. J'ai d'abord écrit, après avoir raconté des anecdotes autour de moi, peut-être pour informer, peut-être aussi pour m'exprimer, peut-être aussi pour être en contact aussi, après un moment d'isolement assez compliqué. Et en fait, je dirais qu'il y a eu un écho qui me surprend positivement. Je m'en réjouis d'ailleurs. Je suis encore une fois content d'être ici pour en parler avec toi. Et 2022 était une année éminemment politique, je dirais. Donc ça ressort aussi des remarques, des observations de mes élèves, de leurs questions, de leurs peurs, de leurs angoisses.
Oui, tu parles très bien. Il y a tout un chapitre que tu consacres justement aux élections avec tes jeunes élèves.
Et
tu essaies de communiquer avec eux, tu fais des mini-sondages. C'est très intéressant.
Alors précisons, j'ai pas pris mes élèves pour des cobayes. De la même manière, quelqu'un un peu maladroitement, mais cette personne, je sais pas si elle écoute ou elle se reconnaîtra, penser, par exemple, que j'ai fait ça comme une expérience sociologique. Mmh. Je suis désolé, ma vie, c'est pas une expérience sociologique. Ouais. Ce boulot, c'est pas une expérience sociologique, d'accord ? Mais je pense qu'elle l'a compris. Et j'ai pas non plus utilisé mes élèves comme des cobayes. Mmh. Il se trouve que je suis prof d'histoire, géographie et EMC, enseignement moral et civique. Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de l'EMC, eh bien, tu peux parler des règles du jeu politique, de l'égalité homme-femme, de la laïcité, des réseaux sociaux, du harcèlement. Tu peux parler de plein de choses. C'est un cours que j'aime beaucoup faire. Voilà. C'est pour ça, de manière un peu ironique, je me présentais comme politiste pour prof de 6e. On comprendra la référence. Oui, parce que c'est ça ma position aussi. C'est pas si mal que ça, finalement. On peut faire des choses. On peut faire des choses, on peut transmettre, on peut éveiller un certain esprit critique. Encore une fois, il faut aussi être modeste dans ce qu'on fait avec les enfants. Et donc, à ce moment-là, en 2022, il y a un candidat horrible qui s'appelle Zemmour, qui va réveiller des peurs chez les enfants. On va avoir aussi apparaître de l'autre côté du spectre politique quelqu'un qui va apparaître comme l'anti-Zemmour, si ce n'est pour les élèves, du moins pour leur entourage. Donc ça va donner lieu à des choses assez intéressantes. Moi, je vais mettre en place notamment pendant une ou deux séquences, eh bien, je vais les faire réfléchir et travailler sur les professions de foi des candidats. Donc ça va amener à des discussions passionnantes. C'est pour ça qu'on peut faire des choses passionnantes avec les élèves, en fait. À partir du moment où on est dans un cadre qui le permet, là, en l'occurrence, les cours de EMC, je le précise, on était en demi-groupe. Oui. Donc quand on a 10 à 15, on peut faire des choses extraordinaires. Quand on a 25, quand on a 30, c'est déjà très compliqué. D'ailleurs, je l'ai encore remarqué cette année, mais je ferme la parenthèse. Donc, il y a l'année qui est très politique, mais quand j'écris ou quand j'ai écrit cela, j'avais pas une intention, il n'y a pas d'intention militante, si ce n'est de décrire une réalité, si ce n'est de parler du travail, si ce n'est de parler des services publics, et aussi, bah, surtout de la jeunesse, des précaires, de l'enseignement secondaire, hein, donc la catégorie dans laquelle je m'inscris aujourd'hui, et qui a finalement peu voix au chapitre, hein, qu'on entend peu. Hein, sauf quand ils démissionnent, mais autrement, c'est une catégorie, comment dirais-je, qui, pour le moment, n'écrit pas trop. J'espère qu'il y aura d'autres témoignages que le mien, qui iront dans mon sens ou qui viendront me contredire. Hein. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et donc, c'est d'abord la question du travail, mais effectivement, il y a la question de la gauche, en fait, qui transparaît par moments. Et puis, comme tu me le disais un petit peu tout à l'heure, un livre politique ou un texte politique. Un texte, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un article, ça peut être une nouvelle. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir d'avoir recours au jargon théorique, militant, qui va ne parler qu'au bac plus 5 et au bac plus 8. Je pense qu'il y a parfois, il y a des petites piques dans le livre. Des petites piques, mais qui ne se veulent pas nécessairement méchantes. Hein, en tout cas, c'était pas l'intention. Mais je crois que j'ai aussi voulu attirer l'attention et je me réjouis et je me rassure quand c'est compris comme cela, qu'à un moment donné, quand on prétend mobiliser, quand on prétend organiser, quand on prétend s'adresser au milieu populaire dans toute leur diversité, dans toute leur richesse, il y a aussi justement une dignité à avoir dans la manière dont on s'exprime. Et si, comme malheureusement ça se passe aujourd'hui dans des espaces fragmentés de la gauche, où les gens finalement ne font que se fréquenter entre eux dans des petits cercles, des petits milieux qui se font la guerre en permanence, et qui oublient, et qui en fait ont un vocabulaire, une posture, une manière de s'habiller, mais peu importe en fait, enfin, genre, la manière de s'habiller, on est libre de s'habiller comme on veut, mais je crois qu'il y a un petit effort à faire dans la manière dont on parle publiquement, oralement, mais aussi dont on s'exprime à l'écrit. Et d'ailleurs, j'ai été... C'est un livre que j'ai pris plaisir à écrire, parce que je ne savais pas que ça allait être un livre, déjà. Mais je suis très fier d'avoir fait mon premier livre sans note de bas de page, par exemple.
Oui.
Et je suis très fier aussi qu'un de mes cousins, c'est sa femme qui me l'a dit, a lu plus de 2 pages de ce livre-là. Alors qu'il avait il avait fait l'effort d'acheter mes précédents livres, mais il a eu du mal. Mais je veux dire, mais comme d'autres membres de ma famille et comme d'autres membres de mon milieu, je dirais, des gens qui viennent d'un milieu populaire, qui n'ont pas forcément fait d'études, ou alors pas d'études en sciences sociales, en sciences humaines et sociales, à un moment donné, quand on n'écrit pas que pour les bacs plus 5 et les bacs plus 8. C'est pas possible. De la même manière que quand tu vas faire ton track, quand tu fais une émission, quand tu participes à une mobilisation, tu vas pas t'enfermer ou mettre une distance qui peut relever de la violence symbolique, en fait. Pour dire, moi, je sais. Moi, j'ai les bons mots. Et toi, t'as pas la référence? T'es pas au courant de la dernière mode théorique?
Ouais.
Donc, t'es hors-jeu, en fait. T'es hors-jeu, tu comprends pas. Mais moi, je vais t'expliquer, je vais te faire la leçon. Et avec un truc très paternaliste, très dirigiste, pour ne pas dire autoritaire. Donc, là encore, je pense qu'il y a un vrai effort à faire. Et pour tout le monde, hein. Même moi, je sais que parfois, peut-être qu'on pourra me le reprocher dans le cadre de cette émission, je peux parfois utiliser des mots ou un vocabulaire qui mettrait à distance certaines personnes, c'est pas du tout mon intention, et moi c'est pour ça que j'adore les échanges avec mes lecteurs, et puis avec des gens qui ne sont pas forcément mes lecteurs, mais qui vont venir à des rencontres, à des présentations, parce qu'en fait, on est dans un cadre humain, on est à bonne distance, on est dans une, en général une bonne ambiance, hein, ceux qui sont venus aux présentations du livre pour le confirmer ou pas, mais en général, ils vont le confirmer, et en fait, on échange, on essaie de s'écouter, on essaie de débattre, on partage nos expériences, et puis on peut-être qu'on élabore, enfin, c'est pas peut-être, on élabore dans ces cadres-là.
Oui, ce que j'avais trouvé aussi tout à fait intéressant dans ton approche, dans ton récit, c'est, alors là, je vais utiliser peut-être un mot un peu allez, compliqué, ça, la réflexivité, justement, ce regard que tu peux avoir, toi, de l'intérieur, sur ta pratique de prof, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles tu l'exerces, les conditions matérielles, bien sûr, les relations avec les élèves, les relations avec l'institution, les relations avec les collègues. Et j'étais surpris, on en avait discuté lors de ta présentation au lancement du livre à Quilombo, j'étais très surpris de voir qu'il n'y avait que ça existait quasiment pas dans le milieu de l'enseignant, cette réflexion collective ou individuelle sur les conditions d'exercice et sur l'exercice en lui-même.
Alors en fait, et je crois que tu te souviens de la réponse qui t'avait été apportée, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est systématique, ouais, ou institutionnalisé, donc généralisé. Et en revanche, d'ailleurs, j'ai encore eu des témoignages de collègues. Soit encore une fois, je suis très content d'avoir l'occasion, pas seulement de parler via les médias et à Radio Libertaire en particulier, mais dans les rencontres que j'ai pu faire en librairie ou dans des espaces militants ou associatifs, hein, depuis quelques semaines maintenant, y a des collègues qui viennent, mais pas que. Parce que le but, c'est pas juste de parler entre profs, parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est une question qui est politique et qui, encore une fois, concerne tout le monde. Et tous ceux qui ont la prétention de transformer ce monde, de le changer. Et en fait, bon, j'ai notamment une collègue à Lyon qui est venue et qui fait partie d'un groupe où, justement, il y a cette réflexivité, cette réflexion sur la pratique. Mais ce sont des espaces qui sont pour le coup corporatifs et qui regroupent d'abord des enseignants. Bon, malheureusement, c'est, encore une fois, c'est pas généralisé, c'est pas systématisé. Alors, faut pas dire que ça n'existe pas, mais ce n'est pas un réflexe ou une pratique que tout le monde suit, justement. Bon, encore une fois, hein, pour me faire tous les reproches que je veux, et l'intention, c'était pas nécessairement de réfléchir sur le métier, un métier que moi j'exerçais encore une fois à l'université, dans le supérieur il y a quelques années, et je me suis retrouvé dans le secondaire, pour les raisons que l'on comprend dorénavant. Et donc effectivement ça fait réfléchir parce que je me souviens tout à fait de mes premiers cours en arrivant dans ce collège de la banlieue sud, en janvier 2021. Et moi, j'avais encore les réflexes d'un cours en amphithéâtre ou dans une salle de TD avec des jeunes adultes. Donc, je partais avec des phrases comme je l'ai fait maintenant, un peu trop longues, tu vois. Et mes élèves ne comprenaient pas. Mais parce que j'étais décalé, j'étais à côté de la plaque. Parce que je n'ai pas été formé. Et parce que je me suis adapté également. Je me suis adapté à des élèves qui ont des difficultés d'attention, de concentration, qui ont des lacunes de vocabulaire, de connaissances, concernant les connaissances générales. Et donc, je me suis mis aussi à leur niveau, sans être démagogique. Mais je veux dire, à un moment donné, si tu ne fais pas cet effort-là, ça ne marche pas. Rien ne marchera, avec la meilleure volonté du monde. Donc, il ne faut pas rester dans cette posture rigide, verticale, ou que sais-je encore. Non. Tu t'adaptes au milieu dans lequel tu es, sinon, c'est mission impossible. Et donc, tu fais plus que de l'histoire, géographie, UMC. Tu fais aussi du français. Tu expliques des mots pas qui relèvent du jargon universitaire, militant, radical postmoderne, etc., etc. Je m'arrête sur l'énumération. Des mots simples, du vocabulaire qui est normalement censé faire partie du sens, qui relèverait du sens commun pour nous, pour nous, qui ont été, je crois, de bons élèves. Mais justement, tu fais pas cours seulement pour les bons élèves. Ouais. Et tu formes pas des gens qui vont être profs. Et puis, en raison de la fragmentation de l'espace public, de la disparition ou du recul énorme de la lecture, du rapport au papier, ouais, au journal, j'en parle souvent, avec une espèce de petite nostalgie, mais sans être trop versé dans la nostalgie non plus, parce que ça ne sert à rien. Ce sont les élèves qu'on a, les jeunes à qui j'ai affaire quasi quotidiennement, eh bien, ce sont des jeunes qui ont grandi avec le smartphone. Ouais. Ça, c'est très fort au lycée. Voilà. Donc, le rapport au papier, à de très rares exceptions près, mais je parle de mon expérience, qui fait qu'un collègue qui travaillerait dans d'autres milieux dirait sans doute autre chose, mais moi je parle bien d'un milieu bien spécifique. Lire un livre, c'est plus une habitude. J'irais même chez beaucoup d'adultes, hein, donc moi je fais pas le procès de la jeunesse, je dis regardons aussi ce qui se passe du côté des adultes.
on voit dans le métro. Mais moi aussi, hein, je peux céder à ce réflexe-là. Surtout quand t'as plein de correspondances et que t'as pas le temps de sortir un bouquin, etc., ou de t'asseoir. Et parce que on est serré comme des sardines les uns contre les autres, c'est plus simple de sortir ton smartphone comme ça, tu vois. Et bon, la plupart des gens que tu fréquentes dans les transports, ils vont avoir des oreillettes, ils écoutent de la musique ou ils écoutent un podcast. Peut-être qu'ils vont écouter réécouter l'émission, tu vois. C'est pour ça que c'est utile aussi de la mettre à disposition par la suite. Mais il y a une disparition, ou en tout cas un recul du rapport à la lecture sur papier, qui invite en fait, là aussi, c'est un moment à toi. Tu t'extrais un peu de la violence du monde, du brouhaha. Et tu vas chercher, là encore, mais peut-être que c'est... je parle pas que pour moi, mais on s'est tous confrontés à ça, à une difficulté, à un mot qu'on ne connaît pas ou dont on n'a pas entendu parler, qu'on allait chercher dans le dictionnaire, etc. C'est des réflexes ou des habitudes qu'aujourd'hui, beaucoup de nos élèves n'ont plus. Mais ça ne veut pas dire que c'est perdu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, au contraire. Donc on explique, on fait de la pédagogie, on essaie de transmettre et d'apprendre. Voilà, tout simplement.
Donc, on a bien compris, à t'écouter, l'attachement que tu as à la transmission et puis à essayer, avec les difficultés que tu peux rencontrer, toi et puis les autres enseignants, à transmettre et à donner aux élèves que tu as en face de toi ce goût peut-être pour quelque chose, l'histoire, la géographie, l'enseignement, comment, EMC ?
EMC, oui, enseignement moral et civique.
Oui, moral et civique, oui. Je ne connaissais pas ce terme, hein, mais...
T'avais pas d'instruction civique, toi, à l'époque ?
Oh, il y a très longtemps. J'ai même eu des cours, je fais partie de la génération qui a connu les cours de morale, pour te dire à quel point je suis vieux.
Non, mais tu vois, c'est la même chose, on y revient.
Voilà, c'est une ressuscité un petit peu tout ça, mais... En tout cas, tu nous as bien partager ton enthousiasme et encore une fois c'est un récit effectivement sensible et un récit tout à fait à la fois à la hauteur des enfants mais aussi avec ton regard de politique, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux bien insister. C'est un ouvrage, pour moi, en tout cas, qui est vraiment politique dans son fond. Pas dans sa forme, mais dans le fond, effectivement, c'est vraiment une réflexion tout à fait politique et sociale et bien précise. Je voulais te remercier justement de nous avoir donné ce témoignage et puis d'avoir partagé avec l'ensemble de nos éditeurs, en tout cas cette force qui t'anime d'une certaine manière. Hein. Est-ce que je peux te poser une question sur ton prochain travail ?
Ah, mon prochain travail ?
Qu'on prépare l'émission suivante.
À préparer l'émission suivante. Alors, je vais dire Joker. On en reparlera en privé. Tu sais, il y a des projets qui parfois mettent du temps. Peut-être tu sais à quoi je fais référence. Il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui dépendent pas de nous. Donc il y a des projets ou un projet sur lequel j'ai travaillé qui a un peu tardé, mais j'espère qu'il verra le jour par loyauté et par amitié. C'est important quand même. Hein. Du coup, cette fidélité-là, moi j'y tiens. Et... ensuite, il y en a d'autres qui apparaissent. Tu sais, il y a des rencontres comme ça que tu fais. Parfois, tu peux être un peu désespéré et découragé, parce que c'est vrai que tu parles de l'enthousiasme, de l'énergie et tout. Tu sais aussi que ça n'a pas toujours été facile, qu'on évolue aussi dans des milieux qui ne sont pas toujours portés sur la solidarité, l'empathie, l'écoute, la bienveillance, le libre débat et la contradiction. Hein, on le sait bien. Bon, mais il faut essayer de tenir bon. Et donc, là encore, il y a des portes qui se ferment. Il y a des portes qui se sont fermées, qu'on m'a fermées au nez. Et il y en a, malheureusement, il y en a d'autres qui s'ouvrent. D'accord. Donc voilà, il y a des choses qui sont possibles, qui sont pensables et dont on reparlera, j'espère, avec beaucoup de plaisir prochainement lors d'une autre émission.
Merci encore Nedjib. Je rappelle ton livre, le titre, Le Remplaçant, journal d'un prof précaire de banlieue. Nedjib Sidi Moussa, c'est paru aux éditions L'Échappée. Et puis cette émission est disponible pendant un an sur le site de Radio Libertaire, à la page des podcasts. Encore une fois, grand merci à Monique pour avoir assuré la technique
Monique. Au pied.
Et puis à très bientôt. Et on va terminer sur le générique. Merci Monique.
Écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Il m'a fallu des années, et c'est long, pour ôter de moi toute religion, ce que c'est quand même que les habitudes et la trouille. Peur de déplaire à sa famille, peur déjà de supporter sa dernière heure, sans qu'aucun espoir d'un monde meilleur ne gazouille. Enfin j'en suis sorti, et c'est tant mieux, mais voilà que mon fils ouvre les yeux, ne demandant qu'à croire aux merveilleux évangiles. Qu'il me pardonne de lui dégonfler son Superman pour bande dessinée. Faudra vivre sans lui, tant pis si c'est moins facile. Et Jésus, depuis le début des temps, il y en eut plus d'un, heureusement, à vouloir nous sortir de notre banc de galère. À prêcher l'amour, à prêcher la foi, par des miracles épater le bourgeois, et alors je ne vois là rien d'extraordinaire. Il guérissait les malades, et puis quoi? Des guérisseurs, j'en connais deux ou trois, dont la mère n'était pourtant pas immaculée. Ton Jésus, range-le chez les héros, admire-le sans chanter de credo, et des églises, ne va pas croire aux contes de fées. Puis, quand tu seras sorti de là, ne tombe pas de carré.